De campus, il est 9h.
Il faut être très très doux en fait avec les abeilles, il faut y aller en douceur, parce que sinon après voilà, elles peuvent être agressives. Mais sinon il n'y a aucun danger. Je viens même parfois sans combinaison. Je suis passionné par le travail qu'elles peuvent faire. C'est impressionnant. Quand une abeille naît, en fait, elle va nettoyer des cellules, elle va devenir nourricière, elle va devenir ouvrière. Elle passe par plusieurs métiers et c'est passionnant de les regarder. Et une colonie, c'est comme une ville, comme une entreprise. Elles s'organisent toutes entre elles.
Entrer au cœur d'une ruche et écouter le rythme de vie des abeilles, c'est la passion de Frédéric, appelé l'apiculteur de l'Artois. Cet habitant de Brebières, près de Douai, a repris au printemps dernier le rucher de la ville voisine, Vitry-en-Artois. C'est là que nous rencontrons cet apiculteur débutant et ses abeilles, dans un cadre verdoyant et champêtre, au bord du canal de la Scarpe.
J'étais sapeur-pompier à Vitry et en fait j'ai, lors d'interventions, beaucoup d'interventions avec des apiculteurs. Je suis passionné par la nature, de par mon métier, puisque je travaille dans le domaine de la biodiversité. J'ai effectué en fait une formation pendant près de 9 mois au syndicat apicole artésien d'Arras. Voilà, j'ai eu la chance en fait avec des amis qui faisaient de la marche en fait de trouver ce rucher à Vitry-en-Artois qui était abandonné. Donc j'ai contacté la mairie de Vitry-en-Artois et j'ai eu la chance de me confier ce rucher qui est dans un magnifique site en pleine nature.
Donc depuis quand déjà vous êtes apiculteur? Ça a commencé à quel moment?
Donc en fait j'ai commencé ma formation en septembre 2024, j'ai terminé en juin 2025 et donc je viens de m'installer, donc c'est tout récent, hein, depuis 2 mois je suis ici.
Et qu'est-ce qui vous passionne de l'apiculture?
Alors je suis passionné déjà de par la nature, la biodiversité. Je trouve que c'est un être pollinisateur en fait qui est très très intelligent, qui fait beaucoup de choses. J'adore le miel aussi. Voilà, j'ai eu la chance en fait de rencontrer des apiculteurs de par mon expérience en tant que sapeur-pompier, des formations aussi que j'ai pu faire. Et voilà, j'ai voulu me lancer dans cette nouvelle aventure.
Et là, nous sommes où ici exactement? C'est quel endroit? Parce que là, à la radio, on n'a pas l'image, mais on a le canal de la Scarpe à côté. C'est vrai que c'est beaucoup de nature. On est vraiment en pleine nature.
Nous sommes en pleine nature, juste à côté des jardins municipaux de la commune de Vitry-en-Artois. Donc en dessous d'un magnifique sol pleureur. Voilà, effectivement en pleine nature, juste à côté du canal de la Scarpe, avec parfois des cygnes qui viennent me faire coucou ou des poules d'eau.
Et vous disiez, ouais, les ruches, elles étaient abandonnées par la commune parce que ça appartenait à la commune, en fait, hein, ici, les ruches.
Donc les ruches, c'est le rucher municipal de Vitry-en-Artois qui effectivement en fait depuis un an en fait il n'était plus exploité. Donc les ruches, effectivement, il n'y avait plus d'abeilles et en fait voilà, j'ai tout remis en état et voilà, je me suis réinstallé avec de nouveaux essaims.
Et donc pour vous, c'est une passion ou ça devient un métier aussi d'être apiculteur?
C'est une passion et en fait c'est un travail accessoire, hein, puisque je travaille dans l'administration, dans le domaine de l'environnement, justement avec les produits phytopharmaceutiques. Et voilà, je suis passionné en fait par ce monde de l'abeille et je veux faire une activité accessoire en plus de mon travail. Donc là on va procéder en fait à l'allumage de l'enfumoir. Hein. Donc l'enfumoir en fait ça permet d'avertir les abeilles en fait qu'on va travailler avec elles. Donc ça permet de moins me protéger, puisque en fait on signale en fait qu'on arrive, ça coupe un peu les phéromones, c'est-à-dire que les moyens de communication entre elles, et donc elles vont redescendre dans la ruche pour se gorger de miel. Et donc du coup je vais pouvoir travailler en toute sécurité sur la ruche.
Et donc, ça prend du temps pour s'occuper des ruches. Alors, l'hiver, elles sont en hibernation, il y a quand même du travail à faire. Et puis là, le printemps, c'est plein d'activités, hein, avec la récolte du miel et tout. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a des ruches?
Effectivement, donc ça, je viens à peu près tous les 2 jours pour leur faire un petit coucou, leur dire bonjour à mes filles. Ensuite, je fais une grosse visite en fait toutes les semaines. Et puis donc après, au niveau de la récolte du miel, j'ai déjà fait une première récolte au bout de 2 mois. J'ai récolté une quinzaine de kilos de miel, dont une partie de la production va être distribuée en fait à la mairie de Vitry-en-Artois. Il y a un suivi régulier pour regarder l'état en fait de la ruche, s'il y a du couvain, s'il y a toujours du nectar, en fait, s'il y a du pollen, pour qu'elle puisse se nourrir et voir l'état de la colonie. J'ai, il y a 15 jours, la perte en fait d'une reine. Alors soit il y a eu un essaimage, c'est-à-dire qu'elle est partie en fait avec une partie du miel et des abeilles, ou il y a dû se passer quelque chose, mais en fait voilà, j'ai eu une reine qui est disparue.
Et on voit autour des ruches, il y a aussi une bouteille accrochée, mais là, ce n'est pas pour les abeilles, justement, pour des prédateurs.
Oui, bah, c'est l'apéro pour les frelons. C'est un anti-frelon, donc c'est un moyen de protéger les abeilles, puisque les frelons attaquent les abeilles. Donc, c'est un mélange, en fait, de bière, de sucre. Là, en l'occurrence, j'ai mis du sirop de pêche et de vin blanc. Donc, les frelons sont attirés par ce mélange. Et par contre, les abeilles n'y vont pas, puisqu'elles n'aiment pas le vin blanc. Donc, ça les repousse. Et mon deuxième moyen également pour lutter contre les frelons, en fait, c'est des portes en fait, au niveau des entrées. L'espace ne laisse pas passer les frelons.
Et on parle des frelons asiatiques, effectivement, qui déciment des ruches. Mais il peut y avoir aussi des maladies. Il faut être vraiment toujours vigilant quand on a des ruches.
Oui, donc en fait, il y a surtout la maladie qui s'appelle le varroa, comme des petites araignées, en fait, des petits crabes en fait, qui se collent en fait, sur les abeilles. Et ça peut effectivement décimer une ruche. Donc ça, c'est, il faut toujours être vigilant, surtout au mois de septembre, juste avant l'hivernage. Donc il y a parfois un traitement qui est fait. Voilà.
Et donc là, on voit trois ruches, deux grandes, on va dire, une plus petite. C'est des colonies différentes. Il y a différents nombres d'abeilles ou non?
Alors en fait, la ruche qui est beaucoup plus petite, c'est simplement que bah, c'est là où la reine a disparu. Donc en fait, je ne peux pas mettre de réos pour récolter du miel, puisque la colonie est en train de se reformer. Là, j'ai eu quatre cellules royales, donc il y en a une nouvelle reine qui a dû naître, qui a dû se faire féconder par 8 à 10 mâles. Et donc là, je laisse en fait la nature se refaire et elle devrait répondre pour avoir des nouvelles abeilles dans 21 jours. Et l'autre, en fait, effectivement, l'autre ruche, c'est une ruche qui est très forte. En ce moment, il y a à peu près 40 à 50 000 abeilles à l'intérieur. Effectivement, avec deux réos, une réos qui est déjà pleine de miel et une deuxième qui est à 80% bientôt remplie. Très délicat. On procède à la visite.
Rencontre aujourd'hui avec Frédéric, l'apiculteur de l'Artois, qui a repris les ruchers de la ville de Vitry-en-Artois, qui produisent une bonne quantité de miel cette année, dû au temps favorable, comme l'explique cet apiculteur amateur.
Oui, effectivement, par rapport à l'année précédente, en fait, où l'année dernière il pleuvait beaucoup, en fait, entre avril et août, cette année c'est une année très favorable, en fait, pour les apiculteurs. Et effectivement, en fait, dans le cadre de la biodiversité, il y a eu le colza, en fait, en début de saison. Puis là, en fait, on va faire du miel toute fleur, donc effectivement, c'est très favorable. C'est une belle saison qui débute bien.
Oui, parce que là, on est à la sortie de Vitry-en-Artois, et c'est vrai qu'il y a tous les champs autour. Hein, c'est ça, elles ont pas mal de choses à butiner, les abeilles.
Elles vont dans les champs aux alentours. Comme elles peuvent aller jusqu'à 3 km, en fait, elles vont jusqu'au marais de Billache, au marais de Vitry-en-Artois, dans la ville, à butiner un peu ce qu'il y a dans les jardins, la lavande, en fait, les arbres fuitiers aussi. Là, j'ai des sureaux en fait, qui sont en train de pousser juste au-dessus des ruchers. Et donc, et j'ai commencé aussi à mettre des petites fleurs en fait, pour qu'elles puissent butiner, pour qu'elles puissent polliniser.
Et donc, c'est quel type d'abeilles aussi que vous avez? Parce que je sais qu'il y a plusieurs sortes hein, d'abeilles.
Donc, l'espèce que j'ai prise, en fait, c'est la pisse mellifera.
Et donc, qui est favorable pour ce type d'endroit ou pas forcément?
C'est un type d'abeille en fait qui est très répandu en France et dans le nord de la France, qui résiste bien en fait au niveau des intempéries, surtout au froid dans les Hauts-de-France.
Alors, est-ce que déjà, même si vous avez commencé il n'y a pas longtemps, vous récoltez beaucoup de miel et qu'est-ce que vous faites ensuite de tout ce miel?
Donc là, j'ai récolté 15 kilos de miel il y a 15 jours, donc au bout d'un mois et demi, hein, que mes essaims étaient arrivés. Donc c'est très bien par rapport à la météorologie qui est très favorable. Et donc ce miel, c'est déjà j'ai une partie avec la mairie de Vitry, en fait, dans le cadre du contrat que j'ai passé avec eux. Donc je dois donner une partie de ma production qui va probablement servir, si j'ai bien compris, pour les noces de mariage ou pour des événements en fait, que la mairie peut organiser. Et puis le reste, c'est pour mes besoins personnels, familiaux. Et je pense d'ici quelques mois en fait développer une entreprise en fait pour vendre mon miel dans les marchés artisanaux.
Et donc vous, l'objectif là déjà, c'est de récolter du miel hein, avec la ville de Vitry-en-Artois, pouvoir les proposer. C'est aussi passer du temps dans la nature. C'est quoi l'objectif de ce projet ?
Effectivement, le but, c'est de passer du temps dans la nature, de développer mes compétences et puis après, effectivement, peut-être m'étendre, en fait, mettre un peu plus de ruches sur ce site ici ou voir, je sais qu'il existe un site également sur Brebières qui est peut-être à prendre. Voilà, le but après, peut-être, c'est de s'étendre, en fait, sur d'autres ruchers, sur d'autres communes.
Et peut-être de pouvoir en vivre un peu ou pas du tout ?
Alors pas forcément vivre un peu, hein. Le but c'est de se faire plaisir. Bon comme là je vous dis en fait il y a une partie de la production qui repart en fait à la mairie, mais c'est pas forcément pour en vivre.
Pour procéder à la visite en fait on a un lève-cadre, puisque en fait toutes les cadres en fait sont collés. Ici vous pouvez voir en fait qu'il y a beaucoup de nectar ici en bas et en fait du miel qui est operculé. Donc sur un cadre il y a à peu près 2500 abeilles. Qu'on peut avoir, c'est que ce qu'ils font d'un côté, en fait, c'est symétrique de l'autre.
Alors ici à Vitry-en-Artois, comme ça se passe aussi avec la commune, est-ce que vous faites de temps en temps des petits ateliers ou des visites des ruches pour les écoles, même pour les adultes ?
Bien sûr, comme je me suis engagé dans le projet avec la mairie de Vitry-en-Artois, donc je me suis engagé à intervenir auprès des écoles ou dans des marchés locaux. Je peux accueillir également en fait des personnes sur site. J'explique également sur ma page Facebook en fait l'apiculteur de l'Artois tout ce que je fais sur le rucher. J'essaie de faire une publication par semaine et les gens qui veulent venir voir, c'est avec plaisir que je peux leur faire découvrir le rucher.
Et puis de partager cette passion, hein, vraiment. Et puis aussi de montrer peut-être l'importance des abeilles pour la biodiversité. Et puis ça, le fait de polliniser toutes nos fleurs.
Bien sûr, ça a une importance primordiale, hein, puisque sans les abeilles, on n'aurait pas de fruits, on n'aurait pas de légumes. Et donc c'est très important. Et actuellement, en fait, il y a un projet de loi d'ailleurs en fait, concernant l'introduction en fait, de pesticides, hein, qui est autorisé dans d'autres pays européens et qui est néfaste pour les apiculteurs, puisque ça peut tuer les abeilles. Donc c'est un produit qui est utilisé pour les cultures, je pense, de betteraves. C'est un insecticide qui pouvait être utilisé aussi par les jardiniers. Mais de moins en moins, puisque maintenant ils utilisent des biocontrôles. Mais ce produit en fait est dévastateur pour les abeilles, donc ça aide. Donc c'est un choix cornélien en fait pour le gouvernement. La loi devrait prochainement sortir et j'espère que ces produits ne seront pas utilisés pour le bien des abeilles dans toute la France. Voilà.
Une ruche produit entre
'était la rencontre de Frédéric et ses abeilles du rucher de Vitry-en-Artois entre Arras et Douai. Pour avoir plus d'infos, rendez-vous sur la page Facebook L'apiculteur de l'Artois. Un reportage de Jérôme Bailly de Radio Scarpe Sensé.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Njarama Kolfa Ibrahima, Similolil Mekuta Radio Campus sur le 106,6 et Silankonakri Mekutemo sur le www.campuslille.com. Radio Campus Wontanara Hayoto.
Sous le pont d'Avignon, on y danse, on y danse. carton. Sous le pont d'Avignon, on s'y plante, sous le pont d'Avignon, ouais comme sous ceux de Nantes, sous le pont d'Avignon, on s'y calme, sous le pont d'Avignon, comme sous ceux de Paname, ouais. Sous le pont d'Avignon, on tapine pour du flouze, sous le pont d'Avignon, exactement comme à Toulouse, sous le pont d'Avignon, ouais comme sous ceux de Lyon, sous le pont d'Avignon, on y meurt comme des cons. D'Avignon, on s'échoue même son bateau. Sous le pont d'Avignon, Mâcon, Montpellier, Bordeaux. Sous le pont d'Avignon, on galère, sous le pont d'Avignon, comme tous ceux de la France entière.
Alors Laurent Michel, administrateur du club Léo Lagrange.
Alors Franck, comme Laurent, voilà.
Nordine, j'ai bien apprécié, je ne sais plus ce que je fais.
Michel, membre de l'association et un des organisateurs.
Administrateur et membre de l'association du club Léo Lagrange font de l'inclusion une véritable force. Dès le début, depuis 17 ans, l'équipe du festival d'accordéon et nos belles bretelles à Ernie dans le Valenciennois accueille des personnes en situation de handicap. Ce groupe accompagne les techniciens lors de l'installation des artistes, montage et démontage de chaque scène. La musique ici tisse des liens et crée des ponts entre les bénévoles. L'inclusion au festival des belles bretelles, quand est-ce que ça a démarré ?
Très rapidement, mais parce qu'on avait dans les équipes de direction, OCA, et dans les bénévoles, on avait des éducateurs qui étaient investis auprès d'adultes un peu différents. Et donc, ils ont fait participer les jeunes, les adultes, aux activités, en particulier montage, le festival lui-même et puis le démontage.
Franck, de les mettre au montage et au démontage, c'est un rôle précis quand même, où il y a cette rapidité, il y a cette précision. C'est un rôle qui n'est pas facile.
Non, c'est pas un rôle qui est facile. Mais après, quand on a envie, on y arrive toujours. Et ce qui particularise, par exemple, je pense tous les bénéficiaires, toutes les personnes qui sont accueillies dans les institutions et qui viennent en tant que bénévoles, comme tout le monde, sur le site des Belles Bretelles, c'est qu'ils ont envie. Il n'y a aucune différence. Ils ont envie, donc ils vont le faire. Ils vont y arriver. Et puis, bah voilà, si des fois on galère un petit peu, bah, c'est l'occasion d'apprendre. Et tout le monde apprend. Hein. Tous les bénévoles apprennent une nouvelle tâche en venant ici. Et ils sont comme tout le monde, ils apprennent.
Et vous insistez bien sur « comme tout le monde », ces bénévoles soient « comme tout le monde ».
Mais ils sont comme tout le monde. La norme, c'est la société qui la pose. Nordine, il dépense autant d'énergie que Michel, on va dire, ou que Laurent sur la journée. Voilà, et plus parce qu'il est plus jeune que toi. Et très souvent, enfin, au début, les autres bénévoles disaient « Ah, bravo, c'est super, ils sont bien intégrés ». Moi, je répondais aux bénévoles, je fais « Non, félicitations à toi. Tu les as acceptés, tu as été vers leur monde. Eux, ils sont tout le temps volontaires. Il n'y a pas de problème. Hein, Nordine ?
Ouais.
T'es tout le temps volontaire, toi ?
C'est toute l'année, tous les ans.
Voilà. Qu'est-ce que tu fais, toi, Nordine, au sein du festival ? Raconte-nous.
Je prends des enceintes, des guitares, des amplis.
Voilà. Qu'est-ce que tu fais avec tout ça ?
Mon social.
Qui t'aiguille ? Parce que t'es pas tout seul, il y a quand même une équipe derrière toi. T'es pas tout seul à monter ou démonter.
Ah non, c'est que Franck. Ouais.
Et il y a qui d'autre avec toi ?
Yann Vossier, ouais. Mélissa, Benjamin Duval. Ouais.
Et c'est pas trop lourd, ça va, parce que c'est quand même physique. Hein.
Non, ça va encore.
Leur confier ce rôle, finalement, c'est intéressant parce que c'est aussi être au contact des artistes.
Oui, alors oui, bien sûr, ça se vit là dans le cadre du club Léo Lagrange et particulièrement du Hainaut Belles Bretelles, en contact avec les artistes. Mais ce qui est intéressant d'entendre aussi, c'est que nous, notre intention au niveau du club Léo Lagrange, on est une association d'éducation populaire. L'idée qu'on se fait aujourd'hui de l'éducation populaire, c'est qu'on vive tous ensemble et qu'on partage les mêmes choses et que finalement, il n'y a pas une différence qui va se faire par rapport à un statut social, par rapport à une origine quelconque, un niveau scolaire ou autre. L'idée, c'est qu'on partage le moment avec chacun, avec nos forces, nos faiblesses, nos différences aussi. Voilà, on a aujourd'hui parlé d'éducation populaire, c'est pas forcément se référer à ce qui se faisait il y a 30 ans. Aujourd'hui, c'est simplement partager des moments tous ensemble, que des gens qui sont à première vue censés pas forcément se rencontrer, se rencontrent et de par cette rencontre, finalement, apprennent à se connaître et à s'apprécier et à mieux se connaître et que l'ouverture que ça va offrir va permettre peut-être à ce que des préjugés tombent, des représentations souvent tenues par les médias ne soient plus.
Vous l'avez vu, au cours des années, 17e édition hein, des Belles Bretelles, il y a moins en moins de préjugés, les clichés tombent.
Alors ça, j'espère. J'aurais envie de le dire oui, sans que ça soit forcément très mesuré. Je ne sais pas trop, je pense qu'il y a encore certainement beaucoup de boulot à faire. Mais ce que j'ai envie de dire, et ce qui, enfin, moi, l'expérience que j'ai assez concrète à ce niveau-là, elle date de 2009. À cette époque, pour le montage, on avait à cette époque-là une très grosse tonnelle qu'il fallait monter. Enfin, ça prenait 8 heures, c'était très lourd. C'était... Voilà, il y a donc des gens, des patients, on va dire, de la communauté thérapeutique du Cato, de l'association de la sauvegarde, qui sont venus à mon initiative, hein, modeste initiative. Et je me souviens qu'à l'époque, certaines personnes ont pu dire « mais c'est pas dangereux ». Et à la fin, ils m'ont dit « mais qu'est-ce que j'ai été con de réagir comme ça ? Je m'en veux, les mecs, ils ont été top, ils nous ont aidés ».
On avait l'habitude de mettre une caisse de Jupiler au milieu de la... Et donc on a dû réviser un peu nos attitudes. Parce que bien évidemment, on n'allait pas pousser au vice. Ouais. Ben ouais. Mais je veux dire, ça nécessite absolument d'apprécier la situation et de s'adapter. C'est plus pour nous, en fin de compte.
On en parlait justement pour préparer cette émission en studio en disant que vos loulous, les loulous, Franck, c'est un vrai rendez-vous dans l'année. Pour eux, c'est immanquable et ils attendent ça avec beaucoup d'impatience. Ils en parlent beaucoup, hein, bien avant le festival.
Ah oui, ils en parlent beaucoup. Alors, il y a les belles bretelles, mais aussi les agités du mélange, parce qu'ils sont sur les deux fronts. Ils avaient même démarré aux agités du mélange. Ils en parlent beaucoup, et ce qui est surtout super, c'est que ça les sort de l'institution, et j'ai envie de dire, j'aime pas trop ce terme-là, de leurs conditions. Oui, 4-5 jours sur l'année, mais pas seulement, parce que maintenant, il y en a beaucoup, ceux qui ont accès aux réseaux sociaux, avec leur petit téléphone, ou alors à l'atelier informatique, ben, ils ont les contacts Messenger, qui de Bruno, qui de Joël, qui d'un tel. Ils avaient par exemple le contact de Pierrot, le contact de Bruno. Et c'est les petits messages. Comment tu vas? Comment ça? Tac, tac, tac. Et bah, y a des relations qui sont créées d'amitié. Alors que normalement, sur le papier, c'était pas possible. Parce que les gens n'allaient pas se rencontrer normalement. Et là, ils sont devenus des gens importants pour certains bénévoles. Et certains bénévoles sont devenus des gens importants pour eux. Et là, on a tout réussi.
Je vois Mélissa, justement, qui est avec nous, qui, justement, elle, est toujours avec Joël, aussi, qui est une programmatrice. C'est ça, c'est un vrai duo.
C'est devenu un duo limite emblématique des Belles Bretelles. C'est que tout le monde les voit tout le temps à deux, pendant les trois jours. On les voit tout le temps balader. Elles sont une image du HBB. Et ça, c'est fantastique, quoi. C'est fantastique.
Peut-être Joël, un mot justement. Justement, Mélissa aussi, c'est un vrai duo. Joël qui est programmatrice.
Oui, c'était une belle rencontre avec Mélissa. Je crois que ça fait 4 ans que c'est mon assistante officielle. La première fois qu'on s'est rencontrés, tout le groupe venait travailler et on a mangé ensemble. Et puis, je sais pas, il s'est passé quelque chose entre Mélissa et moi. Elle a demandé si elle avait l'autorisation de passer la journée complète avec moi, ce que son éducateur lui a donné. Et depuis, elle m'a dit « Est-ce que je peux rester avec toi, Madame Joël, s'il te plaît ?» Et j'ai dit « Mais bien sûr, tu m'es très utile, tu es mon assistante préférée. » Et depuis, chaque année, en fait, on se retrouve, voilà, elle passe tout le week-end à mes côtés. Et c'est pas des mots en l'air, parce que bah, y a des moments où on est vraiment à droite, à gauche, avec plusieurs groupes qui arrivent simultanément, on oublie toujours de prendre quelque chose. Mélissa, c'est celle qui court me chercher la gourde d'eau, c'est celle qui court me chercher le sac, c'est celle qui court chercher Franck parce que j'ai besoin de lui. Elle est indispensable voilà, je suis très heureuse de la retrouver à chaque fois.
Et puis Fred qui est avec nous, comment ça va Fred ?
Ça va très bien.
Alors toi, qu'est-ce que tu fais au sein des Belles Bretelles ?
Je transporte. Ouais. Matin de midi. J'étais à Bocoré ce matin.
Alors, toi, tu es ici. Est-ce que tu te souviens de ta première fois ? Quand est-ce que tu as commencé ici ? C'était il y a longtemps ?
Longtemps. Après, avant Covid. Avant Covid. Ouais.
Oui. Pourquoi tu reviens, toi, chaque année ici ?
Ah, ça me plaît.
Ouais, t'as bien.
Oui, je serai bien. Ouais. Pourquoi l'histoire ? J'ai d'inspirer un peu l'air.
Et tu te sens exister, tu te sens vivant ici.
Oui.
Pareil pour toi aussi, tu te sens exister, tu te sens vivant. Tu sens qu'aussi on peut te donner des tâches à faire, qu'il y a confiance aussi.
Ouais, comme le chamboutou. Le chamboutou.
Ah oui, t'avais fait les jeux pour les enfants. Oui, parce qu'ils viennent aussi des fois pour la journée des jeux. Nordine, on lui avait laissé un stand, le chamboutou. Où il a géré, il a accueilli les enfants. Il remettait les boîtes en place, il expliquait les règles. Nordine, on peut tout à fait le laisser seul avec une tâche. Il n'y a aucun problème. Il s'est communiqué avec le public, il n'y a aucun souci, quoi.
T'as aimé accueillir des enfants?
Bah oui.
Laurent Michel, administrateur du club Léo Lagrange, Franck, administrateur et éducateur, Nordine, bénéficiaire, et Michel, un des organisateurs. Franck nous parlait ici des missions de ces bénévoles en situation de handicap.
La mission première d'un bénévole, c'est de parler à d'autres bénévoles. Sinon, si on ne se communique pas, on n'avance pas. Donc, la première qualité qu'ils ont tous, c'est cette envie d'aller communiquer, d'aller parler aux autres, d'aller partager. Donc oui, on peut leur confier après toutes les tâches qu'on veut. Du moment qu'on est dans la bienveillance entre nous, tous, qu'on soit issu d'Erny ou de Centre Serre-Fontaine de Perouet ou de la sauvegarde, peu importe. L'important, c'est de savoir communiquer. Et après, on fait ce qu'on veut. Hein.
Justement, le festival, il a évolué aussi. Et c'est grâce à tous ces bénévoles.
Oui, bien sûr. Et après, ce que je voudrais peut-être compléter aussi ce que Franck a pu dire, c'est alors peut-être moins pour les gens des structures qu'il a pu citer et desquelles viennent les personnes. Alors, voilà, par exemple, je pense que aux gens de la communauté qui viennent, ça a été un véritable terrain d'expérimentation. Il y a une année, il y a un des gars de la communauté, donc un patient hein, avec des problèmes d'addicto, qui a voulu se tester sur le bar. Et avec plus ou moins de succès, on va le dire. Mais voilà, bon, ça a été aussi des moments qui permettent pour les personnes, notamment à la communauté, de venir justement en situation particulière, se frotter, voir aussi les difficultés qui pouvaient être encore les leurs, dans un cadre quand même suffisamment contenant où les difficultés peuvent être reprises. Pas plus tard que samedi, ça a été la même chose pour un autre qui a pu effectivement s'ester dans les rapports avec les autres. C'est des situations, dans ces structures-là, on ne peut pas les vivre. C'est que sur l'extérieur, et parce qu'il y a des lieux comme ici, ou avec une intention qui est la nôtre, une ouverture d'esprit qui permet ça, que les choses puissent se vivre. Et après, parallèlement, il y a effectivement un vrai plus qui est apporté, parce que ben, si le festival existe, et parce qu'il y a aussi des gens qui se dévouent, dont tous les bénévoles, je veux dire, chacun dans sa place, dans ce qu'il a, dans son potentiel, dans la disponibilité qu'il va avoir, c'est ça qui fait qu'on arrive à ce résultat-là, quoi.
Le Belle Bretelle est aussi un festival aussi d'expérimentation, aussi, qui a montré aussi peut-être d'inclusion pour d'autres festivals.
Oui, c'est pas le festival, le festival, c'est l'outil, mais c'est l'intention qu'on a au niveau de l'asso. L'idée, c'est effectivement aujourd'hui que les gens puissent voilà, être ensemble, partager ensemble, faire les choses ensemble, vivre ensemble, et éviter un peu toutes ces barrières. Enfin, nous, modestement, notre intention, c'est que les barrières qui existent, que ce soit de par le niveau, le lieu, l'origine des personnes, elles volent, que, voilà, et qu'il n'y en ait plus, et que les gens partagent ce qu'ils ont, et se découvrent, et ont envie de se rencontrer, se parler, comme le dit Franck. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, après, bah, on arrive à ce que des situations, modestement, je pense, évoluent, et qu'on ait des perceptions un peu différentes. Quand les représentations tombent, je pense qu'en quelque part, on a gagné.
L'inclusion au Hainaut Belle Bretelle, festival d'accordéon à Erny. Ce reportage a été réalisé par Joris Nassens de Radio Club.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
La force des chocs dispersés, les graines d'un universel métissage. Aujourd'hui l'accident bloque le système. Dans les champs s'est croisé les races, une ombre passe. Une ombre passe. Au nom du fric, les impératifs économiques nous transforment.
transforme de normes d'un modèle matérialiste. Méfiance, sa déviance est fasciste. Dans la constante effervescence de Wall Street, la force écrase, disperse les germes d'un universel sabotage dans sa suite. L'Occident bloque le système. Sur la répartition des richesses, une ombre passe. Dans le chassé croisé des races, une ombre passe. Sur la répartition des richesses, une ombre passe. Une ombre passe.
Qu'est-ce qu'elle veut? Suis-je utile enfin à la société? Des questions, des soupçons et l'humeur est altérée. Des rancunes, des trahisons, on s'énerve, on se court après, puis on se réconcilie. Et déjà c'est reparti. Pour un an, pour un mois, allez donc prévoir cela.
Bye. C'est désormais officiel, le Racing Club de Lens est propriétaire de son stade, le fameux stade Bollard. Jusqu'ici, propriété de la ville de Lens depuis 1973, racheté au IR du Nord-Pas-de-Calais pour le franc symbolique, il a été cédé à l'issue du conseil municipal extraordinaire du 21 mai dernier. Une délibération votée à l'unanimité. Cette vente devrait permettre à Joseph Hougourlian, propriétaire du club, de développer de nombreux projets, notamment commerciaux, et la multiplication de salons VIP devant permettre ainsi de pérenniser le club, sans changer l'âme du club sans erreur. Mais à combien le stade a-t-il été vendu ? Sylvain Robert, maire de Lens, nous donne enfin le vrai prix.
Le chiffre de départ, c'est 54,9. C'est le montant des domaines. Et après, on a pris certaines clauses. Et nous, ville de Lens, on aura une rentrée directe de 27 millions. Mais du côté du club, il y a encore à faire face à l'engagement qui était pris au moment de l'Euro 2016 de reverser une partie à la région, sur la base des 54,9. Donc c'est pour ça que les chiffres diffèrent entre ce que la ville va percevoir et ce que le club va verser. Puis après, il y a les droits d'enregistrement aussi qui sont assez conséquents. C'est pour ça que vous avez entendu plusieurs montants. Mais le montant de base, le montant qui est cohérent et sur lequel la discussion est portée, c'est le 54.
C'est donc le troisième club français à être propriétaire de son stade. Pour l'homme d'affaires Joseph Hougourlian, c'est une somme importante, mais qui lui offre des perspectives de développement, notamment autour de l'enceinte.
Pour le club, je pense que c'est pas la meilleure affaire en termes d'investissement, d'investissement financier, mais d'un point de vue perspective de développement du club, je pense que c'était important d'avoir la propriété de notre outil de travail. Parce que, comme je le soulignais en fait au début du conseil municipal, enfin avant le conseil municipal, on doit faire des investissements. C'est à la fois des investissements nécessaires, des investissements de maintenance, et puis c'est des investissements de développement. C'est comme quand vous êtes locataire, est-ce que vous allez faire gros investissements sur un bien qui vous appartient ? Qui ne vous appartient pas, sans doute pas. Donc ça, c'est le raisonnement de départ. Et puis après, effectivement, quand on se projette à long terme, on voudrait que Bollard vive. On voudrait que ça devienne un lieu de vie hors jour de match.
Attirer du public dans le secteur du stade Bollard, en dehors d'un rencontre de championnat, mais avec quel projet sur le long terme ?
On veut juste créer un endroit où les gens viendraient en dehors d'un jour de match. Donc on peut mettre un peu de... imaginer certains types de commerce, notre boutique, de la restauration, peut-être même un musée. C'est assez facile de voir ce qu'on peut faire autour de ce type d'objet. Après tout, il y a ça un peu partout en Europe. Hein. Il y a dans cette réflexion une série d'idées pour créer un pôle d'attraction hors jour de match.
Pour Joseph Hougourlian, l'achat du stade Bollard doit permettre d'engendrer de nouveaux revenus pour compenser la perte des droits télé et de présenter des projets sur le long terme. C'était selon lui une nécessité.
C'est fondamental à long terme pour l'avenir du club. On va commencer avec des petits pas. Hein. On va essayer de effectivement créer des fan zones autour du stade. On va essayer d'augmenter les places VIP. Non pas aux dépens des autres places dans le stade, mais on a vu qu'il y avait encore de la place et qu'on pouvait faire des salons. Et on va faire une série d'investissements en fait, qui étaient aussi nécessaires, des investissements de maintenance, et qui étaient de toute façon à notre charge, donc il fallait les faire.
Dans les négociations de vente du stade, la ville de Lens a demandé des garanties pour que le nom du stade ne change pas pendant les 20 prochaines années, et que les supporters l'ençoient et l'assurance de ne pas voir le prix des places augmenter. Une exigence que le propriétaire a acceptée bien volontiers.
Du côté club, il n'y a jamais eu la tentation de changer le naming du stade. Donc c'est quelque chose sur lequel on a cédé et c'est la même chose pour le prix des places, pour toutes les places qui sont économiques. Il n'y a jamais eu de velléité de la part du club. Ça serait d'ailleurs totalement... on se tirerait une balle dans le pied de manière assez spectaculaire. Là, on est un club, mais on a notre histoire, on a notre identité.
Ainsi, ni le stade, ni les tribunes ne changeront de nom au profit d'un naming pouvant apporter plus d'argent. Joseph Hougourlian se veut respectueux de la longue histoire du Racing Club de Lens.
Venir dans un endroit comme Lens et s'amuser à changer le nom du stade ou remonter le prix des places, c'est pas Stamford Bridge, hein, Bollard Davis.
Si le stade Bollard gardera son nom initial, la ville de Lens et le propriétaire du club l'ont quand même acté dans le contrat de vente. Bien que Joseph Hougourlian n'a jamais imaginé apposer le nom d'une marque commerciale sur le stade, comme cela existe ailleurs.
Nous, on cherche vraiment à développer le club d'un point de vue financier, d'un point de vue économique, hein, les revenus. Mais il y a des choses qu'on s'interdit de faire, et puis c'est tout. Ça nous semble naturel, et peut-être qu'elles seraient ça ne serait pas du tout problématique dans d'autres clubs. Elles ne le sont pas d'ailleurs à l'évidence, puisqu'il y a, plein de clubs qui ont choisi de changer le nom de leur stade. Et ça a fait grincer quelques dents au départ, et puis finalement les gens s'y habituent. Mais nous, on pense que voilà, on est différent. À l'évidence, on est un club un peu différent sur certains aspects, peut-être pas tous les aspects, mais on a une identité très forte. Très forte.
La crainte des supporters en soi, et notamment le COP sans l'or, était de voir le nouveau propriétaire développer des loges VIP au sein même de la tribune Marac. Qu'ils en soient rassurés, ce ne sera pas le cas, comme l'assure le maire Sylvain Robert.
C'est un engagement du club, mais on voit bien que changer l'âme de Bollard, c'est aussi changer la Marac. Ils ne sont pas du tout dans cette optique-là. Et quelque part, au regard de ce qu'ils souhaitent développer comme modèle, il faut garder aussi ce qui fait l'essence même, la force du club, donc de garder la tribune Marac, le positionnement des supporters face à la sortie des joueurs. Donc c'est pas, on ne peut pas le contractualiser de cette façon-là dans l'acte. Donc on a pu, dans les discussions, aborder ce type de sujet, mais en se disant que c'était déjà une volonté du club sur les tribunes, sur le nom des tribunes, mais qu'en même temps, leur modèle reposait aussi sur une présence forte des supporters à la place où ils sont actuellement.
Autre inquiétude des supporters, que le propriétaire achète le stade pour mieux revendre le club. Habiller la mariée, comme dit un vieil adage.
Aujourd'hui, en tant que T0, vous n'avez pas de, entre guillemets, création de valeur sur acheter un objet qui est bien évalué, il me semble, par les deux parties. Donc après, si on fait des investissements, si ça devient un objet encore plus attrayant et qu'effectivement, certainement, ça apportera une valeur au Racing Club de Lens, mais ça se compte encore une fois en années. Moi, j'ai le sentiment que le club peut être attrayant d'un point de vue financier pour un acheteur s'il arrive à s'inscrire de manière pérenne dans en L1 et peut-être jouer l'Europe de temps en temps, ce qui est un peu notre plan. Mais aujourd'hui, tout ce dont on parle là en ce moment sur le stade est complètement submergé par le discours sur les droits télé. Donc, à supposer même que l'achat du stade soit quelque chose qui habille la mariée, elle est rapidement déshabillée par l'explosion ou la crise des droits télé, qui est une crise bien française. Donc, j'ai pas le sentiment, vous voyez, que ça change grand-chose pour un acheteur potentiel du club. Donc ça, c'est ma réponse un peu financière ou économique sur cette idée-là. Ensuite, moi, d'un point de vue personnel, j'ai toujours dit que j'essaierais d'amener le club le plus haut possible, sans, encore une fois, essayer de faire le pas de trop, sans essayer de me prendre pour ce qu'on n'est pas. Éviter, ça c'est une maladie courante dans le football, d'être la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. Et que si un jour il y avait un projet plus attrayant que le mien, avec plus de moyens financiers pour le club, qui s'inscrive dans la durée et avec un propriétaire plus stable, moi je passerai le bâton sans. Enfin, je pense d'abord au club avant de penser à moi.
Toutefois, il faudra attendre quelques années avant de voir apparaître de nouvelles loges et les aménagements autour du stade Félix Bollard. C'était un reportage de Thierry Tempé pour Radio Plus.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Alors pour moi, une bonne radio, ça serait une radio où il y aurait de la musique, du jazz, de la chanson. Et puis des trucs qui bougent, quoi. Du rock, du rap. Et aussi du reggae. Un peu de classique. Mais je voudrais aussi des informations.
On est bien là, dans une logique impérialiste.
Des opinions.
Moi, je vais te donner mon point de vue.
Des interviews.
Moi, je sais pas, j'habite à Tourcoing.
La politique, quoi.
Nous qui sommes le contre-pouvoir.
Ça déconne, hein.
Elle était violente, cette crise.
Et tout ça, surtout, son publicité. Mais bon, des radios comme ça, ça n'existe pas. Il n'y en a pas.
Mais t'es con.
Ce foutu mélange, c'est Radio Campus, qu'on écoute sur 106,6.
Oh merde, t'as marché sur le fil.
Salut,
c'est les Chasse-Patates sur Radio Campus.
On vous donne rendez-vous le 4 juillet au Grand Sud pour le Grand Bal des cyclistes, la veille du départ du Tour de France.
Parti avec le sourire.
Venez découvrir le tout nouveau spectacle des Chasse-Patates qui vous emmèneront tutoyer les sommets avec des invités et des surprises plein la musette.
J'ai le moral dans les soquettes.
Plus d'infos sur les réseaux sociaux et sur le site du Taillet, letaillierproduction.com et sur ticketmaster.fr.
De nos pères qui ont lutté pour leur foi, et sur les plateaux de Lozère, les arbres morts racontent les combats. Sur le pont au bord de la rivière, chemise blanche, le regard droit. Les uns prient pour la galère, les autres prient les ailes de la foi. Je me souviens des larmes des femmes enfermées dans la grande tour du port de mer. Scintille une flamme, sans cette foi on ne va pas jusqu'au bout. Sans cette foi on ne va pas jusqu'au. Je me souviens des caches de nos pères que les dragons n'ont pas trouvé. Cette longue traversée du désert et tous ces noms pour se rappeler. Les ongles brisés de colère, Marie Durand. Sur la pierre, en un seul mot, elle a tout donné. Je me souviens des larmes des femmes enfermées dans la grande tour du bord de mer. Scintille une flamme, sans cette foi on ne va pas jusqu'au bout. Sans cette foi on ne va pas jusqu'au bout. De nos pères, voyant les poings se délier devant la croix, la bannière, une nouvelle ère va commencer. Sur la route en partant, quand tu sors de ce pays, je me souviens des larmes des femmes enfermées dans la grande tour du bord de mer. Scintille une flamme, sans cette foi on ne va pas jusqu'au bout. Sans cette foi on ne va pas jusqu'au bout. Sans cette foi on ne va pas jusqu'au bout.
Les gens sans mémoire sont des éléphants sans défense. Les gens sans mémoire sont des éléphants sans défense. Mes parents m'ont toujours dit fais les études pour pas avoir un job de merde. Maintenant que les études sont finies, ils me disent qu'il vaut mieux faire un job de merde. Sortir de la misère, remplir mon frigidaire, parce qu'il est toujours vide que de continuer à rien faire. Pas vu, pas prise, sans chercher à l'être. Y'a que dans le rap qu'on m'a reconnu.
C'est pas la meuf qui prend Mac, dès que la porte est ouverte.
Comment veux-tu m'en? Je suis rentré dans le game. C'est bien que ça dépasse l'entendement, mais ta fille sera sur l'Hall of Fame. C'est pas de l'ambition, je suis pas en mission ou en transaction pour vendre mon cul à une maison de disques. Pension, j'aime le risque, mais je n'ai qu'une vie. Je la passerai pas à bosser avec, ni pour des abrutis. Quand quelqu'un me fait la morale, ça me passe au-dessus. Entre les rafales de trop de balles, je suis néo, je suis l'élu. Ma force, je suis trop sérieuse dans le fait de ne pas l'être. Que veux-tu qu'une mouetterie se fasse comme mal en chiant sur une baleine? Bah ouais. Que veux-tu qu'une mouetterie se fasse comme mal en chiant sur une baleine? Baleine bleue malaise, c'est assez balèze. Baleine bleue palais, c'est assez fou de faire. Baleine bleue malaise, c'est assez balèze. Baleine bleue palais, c'est assez fou de faire. Baleine bleue malaise, c'est assez balèze. Baleine bleue palais, c'est assez fou de faire. Baleine bleue malaise, c'est assez balèze. Je sais qu'il faut que je m'entraîne ferme et que ça payera, même s'il faut attendre d'avoir les cheveux blancs à la laisse ligne et saine. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Ouais, c'est moi. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Ouais, c'est moi. 4 ans de rap dans les pattes, un peu moins qu'Amandine. 38 premier EP dans les bacs. Sortie des bars, la société trop cuite. Écriture excentrique, norditude exotique. Dans jeu de rôle, je sais jamais où mettre. J'oscille entre angélique et chaotique. Je suis pas fanatique, mais y a des rappeurs que je kiffe. Sont un peu dépressifs, mais c'est pas de leur faute. Ouais, comme Sullivan l'a dit, à force de se taper des tasses, c'est dans l'ennui qu'on se vautre. Et c'est pas ça que je vaux. Et c'est pas de ça que je m'envole, même si tout le monde se demande qu'est-ce que c'est pas ça quand tu me vois. Débarquer sur scène avec un flow qui assomme. Tu me trouves cool et malsaine, je t'attire et tu frissonnes. Je serai comme un mix entre Nicky Larson et Marilyn Manson.
T'es sûr là?
Baleine de malaise, c'est assez balèze. Baleine de palais, c'est assez fit fait. Baleine de malaise, c'est assez balèze. Baleine de palais, c'est assez fit fait. Baleine de malaise, c'est assez balèze. Baleine de palais, c'est assez fit fait. Baleine de malaise, c'est assez balèze. J'aime bien faire du monocycle car la vie est un cirque où tu tournes en rond, le risque de devenir clown triste. Enfermé comme les vieux lions dans la cage qu'ils habitent. Une sorte qu'à de rares occasions pour faire flipper un public d'autistes. Seul cirque qui me fait kiffer, c'est celui dans Flix. Dallas dans ta caravane avant d'entrer sur la piste. Ton univers impitoyable, bien loin de Jean-Baptiste Poquelin. Je dépeins le portrait de mes contemporains. Une farce virile, légèrement restreinte à quelques archétypes. Tartuffe précieuse, tarée ecclésiastique. À l'époque ça passait mal, maintenant les comics sont des trous de balles. Conneries pour une course à l'audimat. Et y'a pas qu'en matière de spectacle que c'est la zermie. Je préfère me faire des ennemis que de m'abrutir à regarder Secret Story ou BFM. C'est du pareil au même. Les gens sans mémoire sont des éléphants sans défense. Et ils ont encore de l'espoir en élisant Macron de la finance. Dire qu'aujourd'hui on a encore faim et froid en France. Et que ces cubénis n'y changeront rien. Putain, mais putain, faut qu'on avance. Putain, mais putain, faut qu'on avance. Putain, mais putain, faut qu'on avance. Ouais, faut qu'on avance, ouais. Baleine de malaise, c'est assez balèze. Baleine de malaise, c'est assez balèze. Baleine de malaise, c'est assez vite fait.